Le journal sur France Inter. Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, qui est donc le tueur de Las Vegas? Un retraité a priori sans histoire, mais qui cachait un arsenal de plus d'une trentaine d'armes à feu, très loin a priori du profil d'un djihadiste. Nous irons aux États-Unis dès le début de ce journal. Autre question dans une autre tuerie, y a-t-il eu manquement de la part de l'État français dans l'attaque de Marseille? L'auteur des coups de couteau, un Tunisien en situation irrégulière, avait été arrêté par la police la veille de son double meurtre, mais il n'a jamais été expulsé. Une enquête administrative est ouverte, on en reparle avec votre invité Nicolas dans 20 minutes.
Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui répondra également à vos questions au 01 45 24 7000.
Au programme également à Barcelone, grosse journée de manifestation. Aujourd'hui encore, tous les syndicats appellent à la grève générale. En économie, un léger répit pour les salariés de Nokia. 600 postes vont bien disparaître, mais le groupe finlandais s'engage à recruter des centaines de personnes. Les fans de Blade Runner, le film culte de Ridley Scott, sont sur les dents. La suite sort demain sur les écrans. Et une bonne nouvelle symbolique pour les habitants de Saint-Barth, la célèbre Transat AG2R aura lieu au printemps prochain et elle arrivera bien aux Antilles.
France Inter.
Aux États-Unis, jamais sans doute le profil d'un tueur de masse n'aura autant posé de questions. Plus de 24 heures après la terrible tuerie de Las Vegas, au moins 59 morts et 527 blessés, les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les motivations de Stéphane Paddock, un riche comptable à la retraite de 64 ans. Marco Walter, vous êtes à New York pour France Inter, un profil très loin de cadrer avec le profil d'un soldat de l'État islamique.
Oui, pour l'instant, le mystère reste entier sur les motivations du tireur. Stephen Paddock, un homme blanc de 64 ans, c'est un ancien comptable à la retraite, un client régulier des casinos de Vegas. Il menait une vie apparemment plutôt aisée dans un complexe résidentiel pour seniors dans une petite ville qui se trouve à une bonne heure de route au nord de Las Vegas. Stephen Paddock aurait fait fortune dans l'immobilier, d'après les dires de son frère, qui, lui, vit en Floride. Selon lui, il n'y avait aucun signe d'une radicalisation ou d'une idéologie extrémiste, alors que l'État islamique a donc revendiqué cette attaque. Cette piste est toujours écartée officiellement par le FBI, qui n'a pour le moment établi aucun lien entre cet homme et une quelconque organisation terroriste. Stephen Paddock, un homme que l'on dit donc sans histoire, pas de casier judiciaire, mais un homme qui vient de perpétrer la pire tuerie de masse de l'histoire moderne des États-Unis. Il possédait plus d'une quarantaine d'armes à feu, dont certaines ont été transformées pour fonctionner en automatique, selon des médias américains. Il en avait emporté une vingtaine dans sa chambre d'hôtel du Mandalay Bay. Enfin, les enquêteurs estiment toujours que Stephen Paddock a agi en loup solitaire.
Marco Walter à New York et puis Donald Trump se rendra demain à Las Vegas. Quant à la brûlante question des armes à feu en circulation aux États-Unis, fin de non-recevoir hier de la Maison-Blanche pour qui il est prématuré, je cite, d'ouvrir le débat. Ce matin, la ville de Las Vegas n'a plus rien d'une ville insouciante. Elle a perdu en une nuit sa réputation de capitale mondiale du jeu et de la frivolité. Ses habitants, ses touristes font aujourd'hui la queue devant les hôpitaux pour avoir des nouvelles de leurs proches et surtout pour donner leur sang. Le reportage de Loïc Piala.
S'il faut trouver du positif à cette tragédie, c'est le visage montré par les habitants de Las Vegas. Ils ont été des milliers à se rendre rapidement dans les centres de dons du sang de la ville et de l'État du Nevada. Mai, retraité, a passé plus de 6 heures dans la file d'attente.
Hier, j'ai regardé les infos, ça m'a décidé à venir ici pour aider.
Matthew, motard de passage dans le Nevada, a lui aussi fait escale dans un centre de dons.
Oui, c'est à la hauteur de cet événement incroyablement sordide. Un ami m'a appelé et m'a dit, ils ont besoin de sang. J'ai dit ok, autant donner du sang avant d'aller boire. Et il y a des heures à attendre, mais je suis en vacances, j'ai le temps.
L'élan de générosité a été tellement immense que les services de santé ont vite été débordés. Mitzi Edgecombe de Blood Systems.
Est-ce que j'ai déjà vu ça? Je l'ai vu en plus de 20 ans, une seule fois, et c'était le 11 septembre, quand la communauté se mobilise, et pas seulement une ou deux personnes, mais des centaines à la fois.
À l'extérieur du centre, Michael et Eric font partie de ceux qui ont sorti les barbecues, offrant burgers et hot-dogs aux donneurs de sang.
Je suis né et j'ai grandi ici. Quand il se passe quelque chose comme ça dans la communauté, il faut aider d'une manière ou d'une autre. Alors on a décidé de venir donner à manger à ceux qui donnent du sang. C'est l'occasion de montrer au monde que ce n'est pas seulement une ville pour faire la fête ou parier, c'est une communauté. Les familles élèvent leurs enfants ici. Les gens se serrent les coudes.
À Las Vegas, Loïc Pierre pour France Inter.
Il est 8h05 en France. C'est une très inquiétante découverte faite par la police dans la nuit de vendredi dernier.
Oui, au cœur du très chic quartier de la Porte d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris, les enquêteurs ont désamorcé une bombe artisanale après un coup de téléphone d'un habitant. 4 bonbonnes de gaz, 2 dans un hall d'immeuble, 2 autres sur le trottoir, au pied des traces d'essence, le tout relié à un téléphone portable. Un dispositif de mise à feu rudimentaire mais opérationnel. 5 personnes ont été arrêtées par les services antiterroristes, notamment dans l'Essonne. Qui visait-il ? Aucune réponse à ce stade. L'administration française a-t-elle commis une erreur dans le traitement réservé aux tueurs de la gare Saint-Charles ? 2 jours après la mort de 2 étudiantes à Marseille, le suspect, Ahmed Anachi, est bien sûr au cœur d'une enquête judiciaire pour connaître ses motivations et ses possibles liens avec l'État islamique qui a revendiqué l'attentat. Mais ce Tunisien est aussi au cœur d'une autre enquête demandée hier soir par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, à l'inspection générale de l'administration. Ahmed Anachi avait en effet été interpellé vendredi dernier au centre commercial de Lyon-Pardieu pour un vol à l'étalage alors qu'il était en situation irrégulière. Les explications de Sarah Guibaudot.
Ce SDF inconnu de l'antiterrorisme est placé en garde à vue vers 19h vendredi pour avoir volé une veste à 39 €. Il nie. La vidéosurveillance n'est pas très probante. Affaire classée. Au maximum, il aurait écopé d'un rappel à la loi ou d'une convocation au tribunal. Mais l'homme est en situation irrégulière. Les policiers appellent leurs collègues de la police aux frontières. Ce qui se passe ensuite, c'est ce que l'enquête administrative devra établir. Première difficulté, trouver une personne de permanence à la préfecture pour signer l'obligation de quitter le territoire. Deuxième difficulté, samedi matin, le centre de rétention était plein. Une place se libère l'après-midi, mais l'homme ressort à 15h40. Il faut vraiment préciser l'enchaînement des faits, dit-on au ministère de l'Intérieur. En général, les procédures d'éloignement sont très compliquées. Les pays d'origine, pas très coopératifs, et aussi à cause des faux papiers. Le tueur de Marseille avait été contrôlé 7 fois sous 7 identités différentes depuis 2005. Cela n'aurait rien changé dans ce cas, mais le ministère de l'Intérieur prépare un projet de loi sur l'immigration pour allonger les délais de vérification et de rétention.
Sarah Guibaudot du service police-justice de France Inter. Un face-à-face qui s'annonce très lourd au palais de justice de Paris. Le frère de Mohamed Merah face aux victimes des tueries de mars 2012. Deuxième jour aujourd'hui du procès des complices présumés de Mohamed Merah. Au cœur des débats ce matin, la personnalité violente d'Abdelkader Merah, soupçonné d'avoir aidé et embrigadé son jeune frère, Charlotte Piret.
Son arrivée dans le box des accusés a suscité une vague de murmures dans la salle d'assises pleine à craquer. Larges épaules et barbes tout aussi imposantes, celui qui se faisait appeler Ben Laden dans la cité toulousaine des Isards aimante tous les regards et offre en réponse un visage impassible. Mais aujourd'hui, il lui faudra raconter cette enfance marquée par les placements en foyer, la violence, les coups qu'il subit avant de frapper en retour sa mère, sa sœur, son petit frère Mohamed. Ce frère de 6 ans, son cadet avec lequel il s'entend mal, puis finit par trouver un motif de réconciliation, ce sera l'islam radical. Dans cette cour d'assises où il encourt la réclusion à perpétuité, Abdelkader Merah tentera sans doute de convaincre, de se dire totalement étranger aux actes commis par son frère, comme il l'a fait tout au long de la procédure. Mais les faits sont têtus, le président a rappelé ses rencontres avant et après quasiment chacun des attentats de Toulouse et Montauban, comme si l'un rendait compte à l'autre ce qu'il venait de faire ou projetait de faire. Il lui faudra aussi faire face au regard encore plein de douleur des familles de victimes qui espèrent voir condamner celui qu'elles considèrent comme le cerveau de ces attaques meurtrières.
Charlotte Piret, le procès Merah doit durer 5 semaines, à suivre toute la semaine sur franceinter.fr. C'est aussi aujourd'hui que les députés doivent voter le projet de loi antiterroriste intégrant l'état d'urgence dans le droit commun. L'Assemblée nationale devrait largement l'approuver. Il faudra ensuite trouver un accord avec le Sénat qui avait substantiellement remanié le texte.
Et à 8h09, on part maintenant pour Barcelone où la journée s'annonce encore tendue.
Journée de grève en Catalogne, 2 jours après le référendum sur l'autodétermination. Les indépendantistes maintiennent la pression. Au menu, manifestation contre les violences policières qui auraient nécessité des soins pour plus de 800 personnes selon les autorités locales, mais aussi blocage de toute l'économie de la région autonome et de ses stades de foot. À Barcelone, Gérald Inalo.
La mobilisation s'annonce très forte dans les transports, dans les universités. Mais ce qui fait parler ici et ce qui ravit les Barcelonais, c'est que les footballeurs du Barça eux-mêmes se joignent à la grève. Pas d'entraînement pour eux aujourd'hui. Autre institution qui gardera porte close et qui n'avait jamais connu de grève, la Sagrada Familia. Pour le reste, Josep Castells, du syndicat Comissions Ouvrières, l'un des deux premiers syndicats catalans, espère que le secteur privé se mobilisera massivement.
Le nombre de Catalans qui ont été réprimés et brutalisés pendant le référendum devrait pousser de nombreux travailleurs à faire grève aujourd'hui pour protester contre les violences policières. L'appel à la grève a été lancé par les syndicats et les associations de citoyens. Mais si on veut vraiment que la mobilisation paye, eh bien il faudrait que les patrons de Catalogne montent en première ligne et s'engagent à nos côtés.
Les syndicats et les associations veulent frapper fort avant que le Parlement catalan déclare officiellement l'indépendance de la Catalogne. Déclaration qui pourrait avoir lieu dès demain. Barcelone, Géraldine Allou, France Inter.
Et le 7-9 de France Inter sera demain en direct de Barcelone pour une matinale spéciale.
Ah, on passe à l'économie. Les salariés de Nokia partagés entre soulagement et déception. Réunion hier soir à Bercy entre la direction et les syndicats. Au cœur des discussions, la suppression envisagée de 600 emplois. Côté mauvaise nouvelle, eh bien le plan social est confirmé. Côté bonne nouvelle, en revanche, ce plan ne commencera qu'une fois que Nokia aura tenu ses engagements de compter 4200 postes en France. En clair, le groupe finlandais s'apprête à licencier mais aussi à recruter. Les explications d'Hélène Philly.
La direction est venue avec un calendrier. 200 embauches en recherche et développement dans les mois qui viennent. 500 d'ici à la fin de l'année 2018. C'était la promesse il y a deux ans. Les services sont à pied d'œuvre, jure aujourd'hui le président de Nokia France, Thierry Boisnon.
On a des journées de recrutement qui vont se faire dans les mois qui viennent, qui vont être organisés sur nos deux sites pour effectivement accélérer. Vous savez aussi, l'été, c'est toujours un peu plus compliqué et ça met un certain temps aussi en général sur deux ou trois mois pour pouvoir avoir les effectifs.
Il y aura bien à terme, promet la direction, 2500 ingénieurs en poste, des investissements en 5G, en cybersécurité, à Lannion surtout. Et ça rassure des syndicats inquiets de la pérennité des sites et de l'activité en France. Mais le plan social n'est pas remis en cause pour d'autres métiers que ceux de la recherche. Claude Josserand de la CGT.
On ne peut pas se contenter de ça et de laisser partir nos emplois dans les pays dits low cost, parce que c'est quand même l'essentiel de 600 suppressions d'emplois, c'est là-dessus. Quel va être l'ordre de venir, ça reste posé, pourtant c'est des emplois hautement qualifiés.
La procédure reprendra dans une dizaine de jours, un prochain point d'étape est prévu à la fin du mois de novembre.
Hélène Philly, en bref, toujours en économie, la réapparition de l'ancien ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, était hier à Grenoble, au chevet des salariés de General Electric, où 345 emplois sur 800 sont menacés. Il a promis qu'une solution existait pour sauver le site. Elle passerait par le rachat par l'État des parts détenues actuellement par Bouygues. Si le ministre de l'économie ne le faisait pas, Bruno Le Maire serait, selon Montebourg, passible de poursuites pour détournement de fonds publics par négligence. 5 mois après les images du candidat Macron face à la colère des salariés de Whirlpool, le désormais président sera cet après-midi à Amiens sur le site de l'usine. Usine à l'époque menacée mais finalement rachetée par un industriel de la région. En marche vers l'exclusion, le sort des députés dits constructifs, Macron compatible, sera cet après-midi au menu d'un nouveau bureau politique du parti Les Républicains. Lui ne cherche pas à exclure les Républicains, mais à liquider des réplicantes. Lui, c'est Harrison Ford à l'affiche du film de science-fiction le plus attendu de ces dernières années. Harrison Ford qui reprend donc du service pour donner une suite au mythique Blade Runner, Blade Runner 2049. Ça sort demain en France, 35 ans après le chef-d'œuvre de Ridley Scott, un pari attendu, mais aussi très redouté par les fans du film. Sébastien Sabiron.
Les réplicants sont comme les autres machines. Ils sont ou bénéfiques ou nocifs.
Et pour chasser les réplicants nocifs, il y a le Blade Runner, un officier d'élite chargé de débrancher les robots récalcitrants. L'histoire débute 30 ans après l'original, dont Julien Cespedes est un fan absolu. Il tient la dimension fantastique, une librairie parisienne.
C'est un des films qui a marqué toute une génération. C'est un film culte pour ses innovations techniques, pour son côté de la SF beaucoup plus sombre, un futur pas forcément joyeux, une réflexion autour de la robotique. Ça a été une vraie source d'inspiration pour beaucoup de films actuels.
Et l'objet d'un véritable culte, même si les spectateurs américains avaient boudé le film à sa sortie. 35 ans plus tard, Julien attend la suite avec fébrilité.
En fait, c'est une attente mitigée entre la crainte et le désir de voir cette suite. on a peur de le comparer au premier. Je pense qu'il faudra le prendre comme un film à part entière.
Je faisais ton boulot autrefois.
À l'écran, les fans pourront compter sur la présence familière de Harrison Ford qui reprend son rôle. Derrière la caméra, le réalisateur canadien Denis Villeneuve. Plutôt de bon augure selon Fausto Fazzulo, le rédacteur en chef du magazine Mad Movies.
C'est en tout cas quelqu'un qui aime beaucoup la science-fiction, contemplative, de la SF adulte en tout cas, pas de la SF puérile on va dire. Il est parfait pour le rôle, je pense.
Et si l'on en croit les premières critiques, le pari d'un Blade Runner au moins au niveau de l'original est en passe d'être relevé.
Qu'est-ce que tu veux ?
Vous posez deux ou trois questions.
Sébastien Sabiron et Blade Runner 2049, c'est pour demain. Un mot de sport pour terminer. La Transat à la voile AG2R, la mondiale qui part depuis 25 ans de Concarneau pour arriver à Saint-Barthélemy, aura bien lieu en 2018 sur son parcours habituel. Arrivée donc aux Antilles. Jérôme Jadot.
Ce mercredi 6 septembre, au petit matin, les eaux bleues du port de Gustavia, à l'ouest de l'île de Saint-Barthélemy, sont devenues boueuses en quelques heures. Des vents à plus de 300 km/h ont tout dévasté. Cette marina prisée des marins et de la Transat AG2R qui vient depuis 25 ans mettra des mois à s'en remettre. Mais il n'était pas pensable pour les organisateurs de la course, dont Mathieu Sarraud, le directeur d'Océsport, de chercher un plan B.
Nous, on n'a jamais vraiment eu de doute. On s'est posé des questions par rapport au Saint-Barth, par rapport à la capacité d'accueil de l'île de se reconstruire en quelques mois, et quelque part on n'en doutait pas vraiment.
Et plus que par le passé, cette 14e édition à venir devra être placée sous le signe de la solidarité avec les habitants de Saint-Barth.
On a parlé avec les membres du Yacht Club de Saint-Barth, qui est un petit club de voile sur la plage. Ils ont perdu toutes leurs unités, on en discutait pour savoir ce qu'on pouvait faire pour justement relancer et remettre les enfants dans un cadre scolaire à la voile.
Il faudra sans doute des années pour reconstruire Saint-Barthélemy qui vit essentiellement du tourisme, mais cette annonce du monde de la voile est une première pierre à l'immense chantier qui attend l'île.
Il s'agissait bien sûr de Jérôme Val. La course partira de Bretagne le 22 avril prochain, Nicolas.
Merci Sébastien Legénie.